Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le yoga, se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, acquérir plus de souplesse. Ce sont les promesses du yoga, 3 millions de Français pratiquent le yoga. Ainsi, des Français se sont lancés dans l'aventure en créant leur entreprise Esprit Yoga. Et vous allez voir que là aussi, dans ce domaine, les Français ont un temps d'avance. Elle existe depuis 1910. Elle fabrique des costumes sur mesure de luxe accessibles. C'est Stark & Son et c'est l'entreprise qui va bien merci. Vous oubliez tout le temps votre mot de passe. Il existe un endroit sécurisé pour les garder. Dashlane vous permet d'en générer d'autres. C'est la solution. Et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
Tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Aujourd'hui, gros plan sur le yoga, un marché qui explose. 3 millions d'adeptes en France, c'est peu. Comparé à d'autres pays, on a longtemps résisté en France, mais des acteurs français ont innové pour pratiquer le yoga à la française. Pour les accueillir, François Geffrier de la rédaction d'Europe 1 pour nous éclairer pendant toute l'émission. Et notre coach du jour, Laurent Chouin, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le DRH du groupe Mazar, merci d'être avec nous. Alors un Américain sur 10 pratique régulièrement le yoga. En France, on a longtemps résisté aux attraits du yoga, pas d'engouement massif hein, comme Londres ou New York. Il a fallu prendre son temps. Mais il y a 11 ans, une femme qui rentrait de voyage a décidé de monter le premier centre de yoga français, des grands locaux épurés et zen pour accueillir un public qui recherchait une activité douce, comme le yoga. Bonjour Véronique Maillet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice des centres Qui. Alors Qui, Q-E-E. Vous avez découvert le yoga il y a 15 ans à l'époque. Vous habitiez en Australie et vous travaillez dans un univers extrêmement lointain du yoga puisque vous travaillez dans la finance.
Tout à fait. Donc effectivement, j'ai vécu en Australie en 2005-2006. Et là, j'ai pris mes premiers cours de yoga. Il y avait pas mal de centres de yoga à l'époque à Sydney. Et c'est une vraie révélation.
C'est-à-dire une révélation. Vous ne connaissiez pas ça avant d'arriver là-bas?
Pas du tout. Et donc, c'est vraiment à la fois d'avoir une pratique du corps et de l'esprit. Où en sortant de mon premier cours, je me suis dit, mais c'est extraordinaire.
En France, on avait quelques petites associations, c'était un petit peu confidentiel, mais c'était beaucoup plus spirituel que physique. Hein.
C'est ça, donc avec de l'encens, avec des tentures oranges, avec...
Des communions très spirituelles, quoi, comme si on rencontrait le Bouddha à chaque cours.
Là, un petit peu.
Vous avez vu le yoga sous une autre forme, sous une forme plus physique?
À la fois physique, mais surtout, y avait le côté corps et esprit, la respiration, l'importance de la respiration. L'importance des pratiques, de prendre son temps. C'est-à-dire qu'on pouvait faire du yoga à la fois rapide ou tranquille. Et donc, ça pouvait convenir à beaucoup de gens.
Et vous avez voulu professionnaliser le yoga en rentrant en France.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Ça faisait pas mal de temps que je voulais me mettre à créer ma propre entreprise. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il n'y a pas de yoga de cette manière-là en France. Et donc, c'était l'occasion de monter mon premier centre.
Alors, comme vous travaillez dans la finance, j'imagine que ça vous a quand même un peu aidé.
Un petit peu.
Comment vous avez fait D'abord, comment vous ont regardé les banquiers? Parce qu'il y a 15 ans, le yoga et les banquiers, ça devait être un peu surprenant comme démarche.
Oui, surprenant, mais en même temps, il y avait toute la partie australienne, américaine. Je suis arrivée avec des chiffres, je suis arrivée avec un business plan. Et puis, un passé, effectivement, dans la finance qui les a rassurés.
Alors, comment ça s'est passé concrètement? Vous les avez rencontrés? Vous avez eu les financements?
Alors oui, le plus compliqué a été de trouver des locaux.
Parce que ce sont des locaux particuliers, ce n'était pas n'importe quel locaux que vous recherchiez.
Alors je cherchais un certain calme, donc ça a été en fond de cours. et en même temps des grandes salles. Donc non, ce n'est pas si simple que ça.
Et donc, vous avez mis du temps à rechercher, à trouver ces locaux ?
Plus d'un an.
Oui. Plus d'un an.
Tout à fait.
François, donc là, c'était il y a 15 ans, mais les origines du yoga, comment il est venu chez nous ? Comment il s'est popularisé ?
Ça commence il y a un peu plus de 15 ans, puisqu'on estime que
vous étiez,
ça commence il y a
précurseur.
Plus de 2000 ans, hein, donc on est très longtemps en arrière. Ça fait partie des six grands systèmes philosophiques de l'Inde, le yoga. Les premiers témoignages relatent des expériences d'immobilité méditative. On fait attention au souffle et on a une conception mystique entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est arrivé en Occident vers le 19e siècle seulement, mais la popularisation réellement, c'est dans les années 50, notamment grâce à certaines stars, toujours aujourd'hui, qui évangélisent sur cette pratique. Dans les stars actuelles, on peut citer Sting, Nicole Kidman, Lady Gaga, Madonna, Matthew McConaughey, entre autres.
Oui, donc aujourd'hui, ça s'est complètement...
C'est presque mainstream aujourd'hui.
Voilà, démocratisé. Donc vous avez monté votre premier centre de yoga à Paris, dans le 9e arrondissement. Comment vous avez fait ? Parce que vous n'étiez pas professeur de yoga, donc vous n'enseignez pas le yoga.
Non, je l'ai monté à partir vraiment d'une vision pratiquante, en fait. Et donc, j'ai été essayer dans des associations, prendre des cours. J'ai rencontré des écoles, des formateurs, pour constituer petit à petit une équipe de professeurs.
Donc, premier centre en 2008, dans le 9e. Combien de professeurs de yoga à ce moment-là ?
À l'époque, une petite dizaine.
Oui, ce qui est quand même pas mal. La particularité de votre centre, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'engager. On paye au cours.
Exactement. Donc, ça peut être au cours ou bien par carte de 10, de 20, de prendre plus de cartes. Mais il n'y a pas d'engagement. J'ai volontairement voulu laisser la liberté aux gens de pouvoir venir pour un cours ou pour plusieurs.
11 ans après.
Oh, je suis hyper contente.
C'est plus un centre. Je crois que c'est
6 centres.
6 centres partout en France.
Oui, alors beaucoup Paris, région parisienne et Aix-en-Provence. Et c'est également une plateforme de vidéos en ligne où on peut faire des cours, des cours de yoga chez soi.
Et Laurent Chouin, ça vous inspire ?
Oui, enfin, ça devrait m'inspirer encore plus. Voilà, exactement. En fait, ce qui m'inspire surtout, c'est que c'est un rapport aussi peut-être à la prévention qui m'intéresse. C'est-à-dire que je pense que le yoga, au-delà de la pratique parfois ésotérique qu'on peut imaginer, qui était peut-être associée effectivement à l'encens, une forme de méditation personnelle, etc. Moi, je trouve qu'il est très intéressant à un moment où on voit monter des troubles musculo-squelettiques, ce genre de choses dans l'entreprise. Il y a une dimension dans le yoga de prévention, ce qui est d'ailleurs, je pense, l'approche australienne ou en tous les cas même Asie-Pacifique, plus que chez nous en Europe, où on va chercher de la médecine pour soigner. Et ça, c'est l'élément qui m'intéresse. Aujourd'hui, vous faites ça, c'est-à-dire que, je ne vais pas demander si c'est remboursé par la Sécu, mais en tous les cas, est-ce qu'il y a une dynamique dedans qui est une dynamique de type médical ?
Alors, une dynamique médicale, non, mais effectivement, on vient aussi faire du yoga pour mieux dormir, pour régler des problématiques qui ne seront pas forcément réglées correctement avec des médicaments, mais c'est plus de la prévention et en ça c'est pas totalement médical, c'est plus de la prévention. Et c'est vrai qu'en Australie ils ont pas, et à l'époque en tout cas en 2005, ils n'avaient pas de sécurité sociale ou c'était très cher, et c'était vraiment leur manière de se sentir bien et de ne pas tomber malade.
Eh bien, très bien, on continue à parler yoga, on reste ensemble.
Il est 13h09.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Pratiquer le yoga avec une tenue sportive fonctionnelle et élégante, le tout 100% français, Kitiwake le fait, et c'est ça, la France qui bouge.
Vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Aujourd'hui, on parle yoga. Comment innover dans ce domaine ? Eh bien, c'est la question qu'on pose à nos invités, Elisabeth.
Oui, le cours de yoga, c'est souvent entre midi et 2 ou en fin de journée. Alors, comment faire pour pratiquer le yoga sans devoir se changer de tenue complètement ? C'est l'idée des fondatrices de Kitiwake. Bonjour Juliette Ouzé de L'Aulnoy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de la marque de vêtements Kitiwake. Kitiwake, c'est l'histoire de deux amies. L'une est professeure de gymnastique suédoise et l'autre, eh bien, c'est vous. Juliette, vous assistiez au cours de votre associée à ces cours de gymnastique suédoise, et très rapidement vous avez trouvé que c'était difficile de trouver une tenue de sport idéale quand on travaille dans la journée, quand on a des rendez-vous, quand le soir on doit encore sortir. Comment faire pour tout concilier ?
Tout à fait. Donc, avec mon associé Canel, effectivement, je participais à ces cours et on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à trouver une tenue qui soit à la fois élégante, qui soit à la fois une marque française et qui soit éco-conçue. Donc, on s'est dit avec Canel, on va créer nos propres tenues. Et au-delà de notre expérience à nous, on savait aussi que le bien-être aujourd'hui est un enjeu sociétal majeur et notamment pour les femmes. On s'est aperçu que un des leviers pour trouver du bien-être et de l'équilibre, c'est de faire du sport, mais que l'un des freins majoritaires pour les femmes, c'est l'apparence. Et du coup, on a voulu proposer en fait des tenues dans lesquelles les femmes vont se sentir bien, confortables, jolies, et ça va leur donner envie de faire du sport pour mieux se sentir.
Alors, comment sont vos tenues ? Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-unes ?
Tout à fait.
Qu'ont-elles de si particulier ?
Alors, elles sont déjà élégantes. Donc, en fait, on propose des tenues qui mixent véritablement sport et mode, c'est-à-dire que ce sont des découpes qui sont adaptées à la pratique sportive. On utilise des matières extensibles, mais sur chaque produit, il y a un élément coup de cœur, des finitions très élégantes, inspirées beaucoup de la lingerie.
Donc très féminine.
Très féminine, qui fait qu'on va se sentir vraiment jolie dans son vêtement. Ensuite, deuxième élément, c'est l'importance des matières qu'on utilise. Donc soit d'origine naturelle, comme de la fibre de bois de hêtre ou d'eucalyptus, ou des matières recyclées.
En coton bio aussi,
exactement,
vos matières sont naturelles.
Nylon recyclé, polyester recyclé. Pour nous, utiliser des matières à impact environnemental faible est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on propose aussi un produit qui est globalement engagé. C'est-à-dire, soit on fait de la production locale, France ou Portugal, comme je vous disais, des matières naturelles ou recyclées, et des soutiens associatifs à Génétique Cancer, au projet environnemental, Plastique Odyssée également.
Donc, voilà. des vêtements qui ont du sens. Alors, comment
ça.
Vous vous y êtes pris ? Parce que c'est compliqué. Enfin, il faut trouver des fournisseurs, il faut aller convaincre des banques. Quel a été le parcours de votre entreprise ?
Alors, avec Canel, on a la chance d'être une équipe très complémentaire, parce que Canel n'est pas simplement coach sportive, mais elle est aussi surtout styliste. Donc, assez naturellement, Canel s'occupait de toute la partie dessin et ensuite de toute la partie sourcing de fournisseurs, matières, finitions, ateliers. Et elle gère tout le suivi de la production. Également, elle est directrice artistique de la marque, donc c'est elle qui a imaginé l'univers, qui s'occupe de la communication. Et moi, j'ai une expérience de marketing et management de marque. Donc, toute la partie banque, financement, marketing commercial,
c'est
tout mon domaine.
C'est vous.
Voilà, on va dire ça.
Comment ça s'est passé ? Vous avez dû lever des fonds ? Vous avez fait une campagne de financement ?
Tout à fait. On a commencé par une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule qui nous a permis de récolter des fonds pour lancer la première série.
On est en quelle année là ?
Là, on est il y a pile poil 2 ans, en 2017.
D'accord.
Ensuite, pour se faire connaître, on participe à des événements de yoga, des festivals, des pop-up stores, ce genre de choses. Et puis en septembre 2017, on lance notre site internet. En juin de l'année dernière, on fait une levée de fonds, ce qu'on appelle Love Money, donc Friends and Family. Et en ce moment, on est à nouveau en recherche de nouveaux actionnaires pour accélérer la croissance de la marque et son internationalisation.
Laurent ?
Il y a une remarque et une question. La remarque, c'est qu'il y a une phrase célèbre de Karl Lagerfeld qui dit « Quand tu commences à te balader en jogging, c'est que tu commences à perdre le contrôle de ta vie. » Et donc, si je comprends bien, en fait, vous, c'est l'inverse. Donc, c'est assez intéressant. Ma question ne porte pas là-dessus. Ma question porte beaucoup plus sur... un peu comme souvent quand on reçoit dans cette émission des personnes qui ont des idées géniales, vous n'exprimez pas où est-ce qu'on trouve vos vêtements. C'est-à-dire que, dans votre cas, j'ai cru comprendre que vous avez renoncé par choix écologique ou autre, éthique, à être distribué, par exemple, par des grandes chaînes de distribution de sport. Donc ça veut dire quoi ? Vous avez un modèle de distribution qui est totalement en ligne, vous avez vos propres boutiques. Comment ça se passe ? Où est-ce que je peux trouver vos vêtements, même si j'ai bien compris qu'ils s'adressent moins à moi qu'à des gens que je peux aimer ?
Oui, vous pouvez faire des cadeaux parfaitement.
Voilà.
Et donc ce cadeau Kitiwake, comment vous allez le réaliser ? Principalement à 90%, on est vendu online. Donc en effet, sur notre site www.kitiwake.com. Pourquoi ? Parce que moins d'intermédiaires, moins d'emballage, moins de transport. Et les 10% restants, donc, c'est de la distribution dans quelques studios de yoga avec lesquels on a les mêmes valeurs et
du coup,
qui nous mettent en avant.
C'est quoi la promotion alors ? Comment vous faites connaître ?
Comment on se fait connaître? On est partenaire de quelques événements de yoga, des festivals. On investit sur de la communication digitale, des partenariats avec des influenceuses, par exemple, sur Instagram. Aujourd'hui, les réseaux sociaux pour développer une marque, c'est clé. Et notamment dans tout l'univers du yoga et du fitness, c'est extrêmement développé. Là, par exemple, récemment, on a développé une collection capsule avec l'influenceuse Ilia Renon, avec laquelle on partage aussi les mêmes valeurs. Et ça, ça nous permet de nous faire connaître. Également, on vient de lancer une gamme de maillots de bain de sport très élégant qu'on a développé en collaboration avec la marque de lingerie et maillots de bain Isée.
François-Juliette vient de le dire, hein, Juliette Ouzé de L'Aulnoy, que les réseaux, c'est clé. Il y a tout un marché, tout un business hein, qui est en train de se développer autour du yoga.
Exactement, on estime qu'en France, il y a entre 2,5 millions et 3 millions de pratiquants du yoga. C'est en augmentation puisqu'on note que la fréquentation des salles, des studios comme on dit, c'est un vocabulaire, monte de 15 à 20% ouais. par an. Vous vous êtes positionné sur une mode yoga féminine, ça tombe bien puisque 70% des pratiquants sont des pratiquantes apparemment. La moyenne d'âge est de 40 ans. À noter aussi, mais ça compte dans ce business comme on dit du yoga, 12% de ceux qui font du yoga sont végétariens. Donc on peut imaginer aussi des gammes de produits
liés à ça. Des courants de pensée qui sont liés derrière tout ça aussi.
Exactement. Et après, effectivement, ce marché, il pèse 10 milliards de dollars aux États-Unis. Il est en augmentation. En France, pour le coût d'une séance avec un prof, faut compter à partir de 30 euros.
Ce qui est cher.
Ce qui est assez cher. Souvent, il y a des offres où le premier cours est gratuit, comme ça on découvre sans engagement, etc. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est autour avec les salles, les vêtements spécifiques, les tapis aussi, la nourriture saine ou encore les DVD et les cours en ligne.
On reste ensemble sur Europe 1. On continue à parler du yoga à la française. Il est 13h19.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Des tapis de yoga écologiques et recyclables pour suivre des cours depuis la maison. Telle est la mission de Yogom. Restez avec nous. Jusqu'à 14h sur Europe 1, vous êtes avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Une France qui bouge en faisant du yoga. Et oui, on parle des innovations dans ce sport aujourd'hui. Et on le voit depuis le début de cette émission, c'est souvent après un voyage que nos entrepreneurs ont eu l'idée et se sont lancés sur le marché du yoga. Bonjour Mathilde Corbin.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Yogom. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors Yogom, c'est à la fois une marque d'accessoires pour le yoga et un site internet.
Oui. Et une application mobile.
Et une application mobile, donc c'est un tout. Alors d'abord, les accessoires. Vous avez fabriqué des tapis pour pratiquer le yoga, le fitness ou le pilates, mais pas n'importe quel tapis.
Non, c'est vrai. La première gamme de tapis, c'est un tapis très accessible pour pratiquer le plus de pratiques différentes. Donc c'est un tapis qui est très léger, qui a la particularité d'être très léger, très antidérapant. Très coloré et écologique.
Donc, voilà. un tapis
universel. Et puis là, petit à petit, je viens de développer un tapis de voyage qui peut aussi faire guise de sur-tapis quand on veut pratiquer, quand on pratique en studio et qu'on n'a pas le temps ou la place d'apporter son propre tapis de yoga. Et pour des mesures d'hygiène également, c'est un tapis qu'on peut apporter en studio ou dans son sac ou dans sa valise quand
donc
on part
pliable,
en voyage, comme une serviette, voilà, tout à fait,
donc
qui passe en machine et qui est hyper léger.
Donc très pratique. Alors on va faire un petit retour en arrière. Vous avez découvert le yoga au cours d'un voyage au Costa Rica, totalement par hasard, hein, vous n'en aviez jamais fait. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a plu?
Ben, voyage initiatique au Costa Rica.
Initiatique, il y a déjà un peu de consonance yoga là-dedans.
Il y a beaucoup de bien-être, de développement personnel et de spiritualité. Et un changement de vie personnel qui m'a amenée dans ce petit coin de paradis.
Amérique centrale.
Voilà, où je suis allée en me disant, tiens, je vais aller apprendre l'espagnol et faire du surf. Et puis j'ai fini...
En parlant anglais et en faisant du yoga.
En pleurant, à faire du yoga et à chanter des mantras. Et je suis revenue quelques mois après avec la conviction de vouloir diriger ma vie professionnelle, de l'allier avec le yoga.
Votre vie professionnelle passée n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat et avec
non.
le yoga?
J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel et puis petit à petit communication, marketing et digital. Donc il y avait cette appétence pour le e-commerce, mais qui n'avait pas encore trouvé son sujet.
D'accord, donc vous étiez au Costa Rica, vous êtes restée... plus que prévu.
Hein, oui.
Vous êtes resté plusieurs mois.
Oui.
Et vous, quand vous êtes rentrée, vous vous êtes dit, j'ai envie de créer mon entreprise autour de cette nouvelle passion qu'est le yoga.
Oui.
Alors pourquoi les accessoires, pourquoi les tapis, comment est né le besoin ?
Ben, yoga, donc pour faire du yoga, je vais avoir besoin d'un tapis. C'est un petit peu le premier accessoire dont vous allez avoir besoin. Et ensuite une application mobile parce que ben il me fallait un programme à suivre. En fait, c'est vraiment parti de mon propre besoin de pratique, et donc j'ai conçu une application mobile avec des programmes de pratique à la maison, plus ou moins courts, des programmes de 5 minutes, d'autres d'une heure, avec de la musique d'un chanteur espagnol qui fait des mantras que j'ai eu l'honneur de rencontrer,
qui s'appelle comment,
Manu Om. Mm-hmm. Des mantras super. Vous pouvez écouter rien que l'écoute de la musique, c'est génial. Voilà, donc le tapis, l'application, et c'était parti. Et maintenant,
vous veniez à peine de commencer le yoga, ça veut dire que vous avez lancé une application sans être, entre guillemets, formé ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans le milieu du yoga, actuellement, il n'y a pas encore de réglementation pour être prof. N'importe qui peut enseigner le yoga. Depuis, je me suis formée, mais pour ma pratique personnelle. Et j'ai construit cette application mobile à partir de ma pratique personnelle et évidemment en collaboration avec des profs de yoga.
Qui vous ont conseillé.
Oui, voilà.
François, qu'est-ce qui pousse justement à s'y mettre au yoga ? On le voit hein, avec les trois personnes qui sont là, nos trois invités. C'était pas une évidence.
Dans quasiment tous les cas, il y a un rapport à la santé. Dans 98% des cas, selon le site Ecoreuil, c'est pour améliorer la santé. 4 personnes sur 5 qui se mettent au yoga, c'est pour l'exercice physique. C'est un sport comme un autre, en quelque sorte. Les 3/4 des personnes ont envie de gérer leur stress grâce au yoga. Il y a aussi l'idée que c'est une pratique spirituelle. Là aussi, c'est 3 personnes sur 4. Et puis, dans des cas plus rares, pour une personne sur 3 à peu près, c'est pour apaiser un problème médical.
Laurent Chouin, notre coach.
Oui, Mathilde, moi j'ai une... Une question ?
Mathilde, la fondatrice de Yogom.
De Yogom, exactement. C'est marrant aussi que votre chanteur s'appelle Om. En fait, il y a tout
le
temps.
C'est
voilà.
Le mantra. Ben, c'est ça. Voilà. Primordial.
Moi, dans mes collègues, par exemple, j'ai Aurélie, qui est une sophrologue professionnelle. Oui. Donc, en plus de son métier avec moi, dans l'équipe RH, elle pratique la sophrologie en entreprise aussi, et chez nous. Il se trouve que je comprends votre intérêt personnel pour le yoga. Mais je me dis finalement que tout ce que vous avez dit peut s'appliquer, par exemple, à la sophrologie. Ce tapis peut être parfaitement utilisé. Donc, comment vous faites pour promouvoir aujourd'hui, et là je parle à l'entrepreneuse, les produits que vous développez au-delà de votre passion ?
Ben, justement, c'est même l'inverse que j'ai fait. C'est que ma passion, enfin, ce qui m'a amené là, c'est pas tellement le yoga, c'est plus la spiritualité et l'effet sur le psychologique, plus que la pratique physique qu'il y a derrière. Donc c'est très vaste en effet, et je l'applique et je le commercialise au travers du spectre du yoga, mais c'est pour ça que j'ai conçu un tapis qui se veut très polyvalent, que j'ai une communication qui est très
Et vous en vendez aux entreprises par exemple ?
Oui.
Ces tapis ?
Et c'est, les entreprises se tournent vers le sport santé.
Oui.
Et c'est vrai que c'est aussi tout à fait adaptable pour
mais vous, c'est
fitness,
le cas ?
Pilates. Moi vraiment j'ai une pratique qui est...
Non mais vous vendez vos tapis, voilà, votre tapis pliable
à des entreprises.
À des entreprises.
Oui.
Alors donc on vient vers vous.
Oui, j'ai beaucoup. Moi, j'ai pas le temps. Je fais tout, donc j'ai pas le temps d'aller.
C'est ça. Vous êtes
démarcher.
Toute seule en plus dans l'entreprise.
Oui.
Donc vous pouvez pas faire commercial, fabrication.
Bah, je le fais, mais du coup, je suis un petit peu partout à la fois. Mm-hmm. Et donc, quant aux collaborations, on s'adresse souvent à moi pour équiper des salles de fitness.
Vous le vendez combien, votre tapis pliable qui se transporte partout ?
59,99€.
Vous ne vouliez pas aller à 60, il y avait une...
Non, je tiens à vendre des produits au prix auquel
on peut le dire, c'est un très chouette tapis. On l'a avec François là, sous la main, si je puis dire. Mm-hmm. Effectivement, c'est souple, c'est pas le tapis
mais
classique qu'on trouve dans les...
On dirait une serviette de plage.
Oui, voilà,
parce qu'un tapis, il y a le côté, ça s'enroule, ça prend de la place. Oui. On imagine un tapis de sol de tente,
c'est
alors
ça.
Que là, effectivement, ça tient
le
dans un sac.
Le toucher est très sympa.
C'est censé donner envie de s'y mettre.
On reste ensemble, on continue à parler de yoga à la française.
Il est 13h28.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions, nous lirons vos messages. Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite.
Vous retrouvez Elisabeth Assayag jusqu'à 14h sur Europe 1 avec La France Bouge. Ce vendredi, on s'intéresse au yoga et plus particulièrement aux innovations qui apparaissent dans cette pratique.
Et nous sommes toujours avec le coach du jour, Laurent Chouin, le DRH du groupe Mazars, François Geffrier, la rédaction d'Europe 1. Et avec nous pour en parler, Véronique Maillet, la fondatrice des centres Ki, Juliette Houzet de L'Aulnoy, la cofondatrice de la marque de vêtements Kitiwake, et Mathilde Corbin, la fondatrice de Yogom. Alors nous avons reçu ce message de cette auditrice, Hélène de Montpellier, qui dit qu'elle donne des cours de data yoga et elle remarque que de plus en plus, il y a des hommes qui viennent dans son cours pratiquer le yoga. Aujourd'hui, 30% de mes élèves sont des hommes. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez aussi remarqué dans, ben justement, je m'adresse à vous, Véronique Maillet, dans les centres Ki. Est-ce que l'on voit apparaître de plus en plus d'hommes qui s'intéressent au yoga? Est-ce que c'est une discipline qui est en train de concerner tout le monde?
Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on part d'assez loin. Donc, je pense qu'au départ, il y avait à peu près 90% de femmes dans les cours. Et maintenant, petit à petit, les hommes s'y mettent. Et c'est,
pour les mêmes raisons ?
Pour les mêmes raisons. Je pense aussi que le fait que le yoga soit devenu mainstream, comme vous disiez, et,
c'est-à-dire les un peu universel. Hein.
Voilà, les entraîne à passer la porte d'un studio de yoga.
Est-ce que c'est vraiment universel ? C'est intéressant, Véronique, parce que tout à l'heure, vous disiez, bon, vous êtes beaucoup implanté en région parisienne, à Aix-en-Provence, sans vouloir avoir de clichés, mais on est dans des lieux de boboïtude assez sympas. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on touche vraiment toutes les catégories de population par le yoga ?
Alors, complètement. J'ai en tête un village dans les Cévennes où il y a, à la maison municipale, deux cours de yoga par semaine. Dans un petit village de 2000 habitants.
Et tout à l'heure, on disait c'est des prix d'ailleurs qui vous ont fait réagir, je crois, parce que quand François disait c'est à peu près
30 euros, François disait en moyenne le voilà, prix d'un cours de yoga.
Oui, effectivement, ça m'a fait réagir parce que le cours à l'unité dans les centres qui est à 22 euros est dégressif jusqu'à 17 euros lorsqu'on prend
un abonnement,
des cartes.
Donc alors, c'est accessible.
Quand on dit qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent au cours de yoga, est-ce que pour vous, Juliette Houzet de L'Aulnoy, ça peut être un nouveau marché pour vos vêtements ?
Pourquoi pas dans plusieurs années ? Pour l'instant, on
est
vraiment...
Ça veut dire non, ça.
On est... Comment ?
Ça veut dire non, ça.
mais pour l'instant, on est vraiment focus femme.
Vous concentrez sur...
Enfin, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le bien-être de la femme. On verra pour les hommes dans un second temps, mais pourquoi pas ?
Alors, on l'a constaté là depuis le début de l'émission, vous avez toutes eu un autre métier avant de vous lancer dans le yoga. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des cours pour être patron d'une entreprise de yoga. Pourquoi vous avez ce lien, ce point commun d'avoir eu une autre vie, entre guillemets, avant ? C'est ça qui vous lie dans le yoga ?
Oui, peut-être.
Véronique Maillet.
C'est d'être passé par, effectivement, une première partie de vie et de s'apercevoir que, alors je vais dire... Je vais exagérer, mais le bonheur est ailleurs, en fait.
Ce n'est pas un entrepreneuriat comme les autres. On ne monte pas sa boîte de yoga comme une autre boîte.
Non, parce qu'on est dans une recherche de bien-être, alors que j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon cas, en première partie de vie professionnelle, je cherchais une carrière.
Dans la finance, hein.
Voilà, et je cherchais peut-être plus une carrière que de me sentir bien dans ce que je fais. Et là, je suis très heureuse. Je suis très heureuse de pouvoir participer à donner du bien-être à tous les gens qui passent
tout en gagnant votre vie.
Voilà.
Il y a d'ailleurs un phénomène qui est intéressant parce qu'on commence à avoir un peu de recul avec La France Bouge. Maintenant, l'émission est installée. Toutes les trois, c'est vrai pour vous, Juliette, Véronique, Mathilde, vous êtes aussi des diplômés. Et on se rend compte ici dans cette émission que très souvent, on a affaire à des gens qui ont monté leur start-up mais qui sont des diplômés. Et ça, c'est un phénomène un peu de société où on n'a plus envie de faire des carrières longues ou tout tracer dans des codes un peu établis. Vous, c'était votre cas aussi, manifestement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une rupture. Vous dites, allez, je veux, l'une d'entre vous, je crois, a écrit quelque part, je vais reprendre le cours de ma vie ou reprendre la maîtrise de ma vie. C'était ça, votre motivation principale ?
Moi, en l'occurrence, oui. J'étais arrivée à un moment où, comme Véronique, j'étais lancée dans une carrière. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait... Là, ce que je fais tous les jours et le boulot, c'est les trois quarts de sa vie, voire plus. Je suis plus alignée avec les valeurs de la société avec laquelle je travaille. Donc, j'ai envie de me recentrer sur mes besoins et de faire quelque chose qui a du sens. Et donc, proposer des tenues qui soient responsables et qui permettent aux gens de se mettre au sport et de se sentir bien, pour moi...
D'avoir de l'estime d'eux-mêmes, en fait.
Ça a du sens. Travailler sur l'estime de soi. Et puis... on avait aussi envie de participer à la mode de demain, La mode, c'est l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et essayer de faire bouger les choses, faire les choses autrement, c'était aussi notre but avec Canel.
Alors, on parle de bien-être depuis le début de cette émission, mais on a l'impression que ce milieu n'est pas encore envahi par l'argent, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous ne parlez pas d'argent, là.
Non, c'est vrai, c'est encore, un domaine protégé, j'ai envie de dire, et il n'y a pas d'énormes boîtes qui viennent. Et on est encore dans... on souhaite apporter du bien-être aux gens, et c'est ce qui nous motive plus particulièrement.
Mathilde Corbin ?
Je dirais qu'en France, en effet, ce n'est pas encore le cas, mais on voit quand même déjà pas mal de dérives sur les réseaux sociaux. Et je pense que toutes les trois, on prêche un yoga plus
pur
et plus spirituel.
Plus éthique.
Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est vraiment notre positionnement, je pense.
Est-ce que dans vos entreprises, tout le monde doit faire du yoga en quelque sorte ? Est-ce que vous préférez travailler avec des collègues qui sont pratiquants du yoga ? Alors vous êtes des entreprises qui ne sont pas des multinationales, mais est-ce que c'est une dimension importante à tout niveau, à tout type de poste, y compris sans aucun lien avec la clientèle, avec le yoga en tant que tel ?
Alors, je vais me permettre de répondre parce qu'on on propose aussi des cours de pilates et d'autres pratiques dans nos centres.
Il y a plusieurs sports dans vos centres qui, yoga, voilà. Pilates, pas de fitness. De la gymnastique douce.
Mais du qigong, de la méditation. Et effectivement, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver chez nous et pas obligatoirement faire des cours. Mais c'est conseillé et en général... Les gens qui viennent nous voir pour intégrer notre société ont une appétence pour ces pratiques, les connaissent déjà, ont envie de travailler chez nous parce qu'ils se rendent compte que ce sont des pratiques qui leur font du bien.
Des pratiques qui leur font du bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus sur Europe 1 nous parler de votre passion et de votre travail sur le yoga.
Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Elle a habillé des académiciens, des chefs d'État. Ses costumes sur mesure ont fait le tour de la planète. Stark & Son, c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Elisabeth Assayag et l'équipe de La France Bouge reviennent dans 3 minutes. Le temps d'écouter le rappeur marseillais Soprano avec son titre émouvant sur le harcèlement scolaire. C'est Fragile, tout de suite sur Europe 1. Fragile, que vous retrouvez sur le 6e album de Soprano, Phoenix. Et jusqu'à 14h, vous écoutez La France Bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et à vos côtés, Elisabeth, il y a le co-dirigeant d'une société qui fabrique depuis 1910 des tailleurs sur mesure. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Parce que c'est un tailleur sur mesure depuis le début du XXe siècle, parce que 3 générations de tailleurs se sont succédées, cette maison familiale a su traverser les époques et les épreuves. Bonjour Charles de Lucas.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. Alors vous dirigez Stark & Son depuis 2014. C'est une société que vous avez rachetée, puisque vous êtes déjà dans le milieu, puisque vous dirigez aussi Camps de Lucas, une autre société dans les tailleurs et dans le textile. Mais au moment où vous avez racheté Stark & Son, c'était en 2014, au moment de la mort d'un certain Monsieur Stark.
Tout à fait. Monsieur Stark est décédé. Mon père connaissait Monsieur Stark et nous avons décidé de reprendre cette maison pour la faire perdurer. Et donc, nous avons changé un tout petit peu l'opérationnel de la société, de ce qu'il vendait. On a modifié ça en 4 ans. Et maintenant, on a gardé le nom pour faire perdurer cette maison.
Alors, justement, parlant de Monsieur Stark, lui, il avait fondé l'entreprise en 1910. Et au moment où vous l'avez racheté, l'entreprise allait bien. C'est juste qu'il n'y avait pas d'héritier, rien n'était prévu pour continuer à faire vivre cette entreprise.
C'est cela même.
Quelle était la particularité de Stark & Son ? Qu'est-ce qui fait que vous y êtes intéressé ?
Ce qui nous a plu et ce que nous n'avions pas, c'était un travail de broderie. Il faisait les tenues d'académiciens, les tenues du corps préfectoral. Et c'est une particularité que nous, on n'avait pas une bonne expertise par rapport à cela. Et puis, tout simplement parce qu'il y a peu de tailleurs encore qui existent en France et sur la place de Paris. Et de se dire qu'une autre maison pouvait continuer, qu'elle date de 1910 et qu'elle pouvait être reprise par une famille, faisait déjà plaisir à la famille qui nous l'a vendue. Et nous touchait aussi énormément.
Qu'est-ce qui vous a plu en premier ? Donc, il y a les broderies, il y a les costumes des académiciens. Donc, tout ça, c'est un savoir-faire. Vous avez aussi racheté ça.
Ce qui nous a intéressé, c'est d'apprendre, en fait, cette fabrication-là et de pouvoir, nous spécialiser de plus en plus sur des tenues de cérémonie. Et ça nous permet maintenant, dorénavant, de pouvoir être appelés par des personnes qui ont besoin de tenues avec des broderies particulières.
Alors, quel est votre savoir-faire aujourd'hui, maintenant que vous avez racheté cette entreprise? Parce que vous avez conservé le nom, mais vous avez totalement changé de stratégie.
Monsieur Stark, à un moment, a commencé à vendre pas mal de prêt-à-porter. Nous, on n'était pas du tout dans cette culture-là, parce que depuis mon grand-père, on a toujours fait du sur-mesure. Donc, on a arrêté le prêt-à-porter, ça a arrêté 80% du chiffre d'affaires, et on s'est concentré pour se lancer sur une mesure qui permettait d'être un peu plus accessible au niveau du tarif que ce que nous, nous proposions déjà dans notre société familiale.
Donc vous êtes lancé dans ce que vous appelez le luxe abordable, hein. Donc pas le prêt-à-porter, c'est quoi le luxe abordable?
Le luxe abordable, c'est que quand vous comparez des marques assez importantes qui vendent du prêt-à-porter à des tarifs élevés, nous, ce que l'on propose, c'est un costume sur mesure, fait pour vous avec des essayages, avec un vrai échange avec le tailleur pour comprendre ce qu'il a besoin à ces tarifs-là.
Et c'est-à-dire, quand vous parlez de tarifs
Nos premiers prix débutent à 2500 euros.
Ce qui n'est pas cher pour du sur-mesure?
Ce qui n'est pas cher pour la qualité de travail qu'on va faire. On trouve du sur-mesure à 800 euros. C'est tout à fait d'autres choses. Mais la maison familiale sur laquelle nous travaillons depuis toujours fait des costumes à 7000 euros. Donc on a essayé de trouver deux choses qui permettaient de toucher deux clientèles.
Laurent Choin?
Aujourd'hui, on voit apparaître des offres de tailleurs sur mesure, mais qui en réalité font fabriquer à l'étranger, pour être plus précis, en Asie, voire en Chine, plus précisément encore, à des tarifs effectivement défiant toute concurrence, mais ce n'est pas ce que vous faites du tout. Donc je suppose, vous, en fait, vos matières, votre savoir-faire est français?
Tout à fait. Oui. En fait, les matières premières sont le tissu. On les utilise par rapport à nos fournisseurs, qui peuvent être anglais, italiens. Il y a aussi des drapiers en France. Mais surtout, ce que nous allons apporter, ça va être une vraie expertise d'essayage, de conseil, de modeler le costume sur la morphologie du client.
Qui achète du sur-mesure?
On a des hommes d'affaires, des avocats, et après on a aussi des personnes qui veulent se faire plaisir pour aussi bien un mariage, pour une cérémonie, pour un événement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu pour vous de vous faire plus connaître, ou est-ce qu'en fait cette discrétion fait partie de la marque?
Ça fait partie de la marque et aussi de notre ADN dans notre famille. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'il y a encore de l'artisanat et des belles choses qui sont faites dans Paris, qui sont faites pour nos clients français, et qu'on pense aussi à la main-d'œuvre qui existe en France.
Merci Charles Deluca, merci d'être venu nous présenter Stark & Son, une belle entreprise qui va bien, merci.
Merci.
Il est 13h46.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Comment se souvenir de son mot de passe ou d'en trouver de nouveaux? Dashlane est la solution des identités et des mots de passe. Elle a été fondée par un Français. François Geffrier nous en parle dans un instant. La France bouge continue jusqu'à 14h avec vous, Elisabeth Assayag. Et il est temps de s'intéresser à la solution du jour de François Geffrier qui concerne les mots de passe.
Et oui, c'est peut-être le tracas numéro 1 dans notre quotidien ultra connecté, nos mots de passe. L'entreprise Dashlane nous autorise à tous les oublier, François Geffrier.
Oui, de l'ordinateur au smartphone, des emails au compte en banque, en passant par pratiquement toutes les applications mobiles, on passe sa vie à rentrer des mots de passe, on doit en inventer des nouveaux, souvent dans la flemme et on utilise le même partout, ce qui est très fortement déconseillé, c'est une grosse bêtise. Alors pour pas devenir fou, on a ces gestionnaires de mots de passe qui sont apparus. Bonjour Frédéric Rivin.
Bonjour.
Vous êtes le président de Dashlane en France. Alors comment fonctionne votre produit? Ça marche pour tout type d'appareil?
Alors oui, tout à fait. Nous avons une solution qui est à la fois présente sur les téléphones portables, que ce soit iOS ou Android, mais aussi sur Windows, sur macOS et bien évidemment dans votre navigateur web.
Donc on lui confie nos mots de passe?
Exactement. Alors ce que vous faites quand vous créez votre compte sur Dashlane, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un mot de passe maître.
Donc on crée un autre mot de passe, forcément.
Un autre mot de passe, évidemment. Mais celui-là, c'est le seul dont il faut se souvenir. C'est la clé de votre coffre-fort numérique. Moi, j'ai par exemple presque 1000 mots de passe dans Dashlane, mais je ne me souviens que de ce mot de passe maître qui me permet de débloquer l'accès
et
à mon coffre-fort.
C'est quoi
coffre-fort.
Votre mot de passe maître alors?
Non. Ça, je ne vous le dirai pas.
Il est trop compliqué. Et on peut aussi demander au service de changer nos mots de passe. Quand on se crée un compte, il nous dit « attention, vous avez utilisé 100 fois le même mot de passe ».
Alors effectivement, dans Dashlane, on a une fonctionnalité qui vous permet d'évaluer votre score de sécurité. On utilise une analyse de vos mots de passe, les mots de passe courts, les mots de passe trop simples, ceux qui sont réutilisés entre vos différents comptes, ceux qui ont été compromis, qui ont été fuités dans des piratages informatiques. Et à partir de là, on vous propose de les changer sur les différents sites pour les rendre uniques et complexes sur les différents sites.
Et ce qui est assez fou, c'est que vous ne les montrez même pas, ces mots de passe que vous générez.
C'est parfois 12 caractères différents, mais on met juste Dashlane, fais-moi un mot de passe, et puis il le fait, on ne sait même pas ce que c'est, mais il le retient tout seul, donc on n'a pas besoin de, ne serait-ce que de le voir.
Tout à fait, ça c'est le confort de la solution. Une fois que vous avez vos mots de passe dans Dashlane, vous pouvez naviguer sur Internet, Dashlane va se charger automatiquement pour vous de remplir les formulaires de connexion au site, les formulaires de création de compte, va vous proposer de générer automatiquement des mots de passe complexes, même de remplir un formulaire de paiement sur un site e-commerce, tout ça ce sera
parce qu'on peut lui confier notre carte bleue aussi.
Mais alors sur notre téléphone ou sur un cybercafé ?
Eh bien, bah justement, au contraire, à ce moment-là, à partir du téléphone, c'est encore plus simple, c'est votre téléphone.
Un autre
téléphone, bah, vous pouvez vous connecter avec Dashlane sur ce téléphone-là, mais il faudra supprimer le compte après pour ne pas laisser les traces à l'autre utilisateur de l'appareil. Par contre, vous êtes les seuls à vous souvenir de votre mot de passe maître, donc c'est le seul moyen d'accéder à vos données.
Laurent ?
Alors, demain, c'est le World Password Day.
C'est-à-dire
en fait, finalement, la journée mondiale du mot de passe.
Oui, c'est une journée de sensibilisation voilà. À la problématique du mot de passe.
Exactement. Mais finalement, je me demande si dans 10 ans, ben peut-être 5 ans, ça existera encore. Pourquoi ? Parce que les méthodes de protection évoluent de plus en plus. Vous voyez, avant, mon iPhone, je le déverrouillais en tapant un mot de passe. Aujourd'hui, à un moment, j'ai mis mon doigt dessus pour, avec le pouce ou n'importe quel doigt, finalement, l'empreinte. Et aujourd'hui, il me reconnaît le visage. Je ne sais pas si c'est un vrai progrès, mais une chose est sûre, c'est qu'on est finalement, on essaie de supprimer de plus en plus cette étape du password. Donc, vous, quelle est votre vision de votre propre futur par rapport à ça ?
C'est intéressant parce que très récemment, Microsoft a annoncé qu'ils allaient arrêter de demander à leurs utilisateurs de changer leur mot de passe régulièrement, qui était une pratique courante à la fois dans le monde professionnel, etc. Mmh. Et ils ont cité Bill Gates, qui avait dit il y a 20 ans déjà que c'était la fin du mot de passe. Donc, c'était il y a 20 ans, donc je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Si je veux faire une sorte d'analogie, alors même si les choses évoluent, la carte de crédit plastique, là, le petit bout, bah, elle est toujours là, alors que ça fait aussi des années qu'on dit qu'elle va disparaître au titre du digital. Finalement, il n'y a rien de plus simple qu'une chaîne de caractères en texte qui permet de sécuriser un accès digital.
Est-ce que vous avez une solution pour qu'on puisse retenir les mots de passe, les codes des immeubles ? Les codes d'accès des immeubles, les digicodes.
Dans Dashlane, vous pouvez mettre vos mots de passe, vos identifiants avec vos mots de passe, vous pouvez mettre votre carte de crédit, vous pouvez mettre vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, pour qu'on puisse remplir sur Internet pour vous. Et vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des notes sécurisées qui vous permettent de stocker le digicode de votre immeuble ou toute information que vous avez envie de stocker de façon sécurisée dans Dashlane.
Il faut juste faire confiance à Dashlane, quoi, en fait. C'est ça.
Alors, la beauté de la solution technique de Dashlane, c'est qu'en fait, vous avez confiance en vous-même. Parce que nous, on fournit une solution technique, mais fondamentalement, tout se passe sur l'appareil de l'utilisateur. C'est votre mot de passe maître qui sert à chiffrer vos données, et tout se passe localement. Il n'y a rien qui se passe sur nos serveurs, donc c'est vraiment vous qui êtes dépositaire de vos données.
Mais pourtant, on peut utiliser cette solution sur différents appareils, donc il y a bien une connexion quelque part.
Alors exactement, nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va s'assurer de la synchronisation entre les différents appareils. Donc ces données qui ont été chiffrées sur votre appareil personnel, elles vont transiter par nos serveurs, mais nous, on n'a pas la clé. La clé, c'est votre mot de passe maître, et ça, on ne l'a jamais. Et c'est extrêmement important pour Dashlane de ne pas l'avoir, parce que sinon, ça nous met à risque.
Alors moi, j'utilise personnellement Dashlane, qui fait aussi des diagnostics de sécurité en ligne. L'autre jour, on m'a indiqué que mon adresse email circulait sur le dark web,
oui.
Mais on ne m'a pas indiqué quoi faire. Donc je me suis dit, bon.
Alors ça, c'est la complexité justement du dark web et des piratages informatiques. Donc il y a des attaques régulières, des fuites sur Internet de mots de passe, d'emails, de numéros de sécurité sociale, etc. Parfois, on sait les rattacher à un site en particulier. Il y en a tout le temps, et nos Facebook, il n'y a pas si longtemps. Et parfois, pas. Parfois, ça transite via les pirates informatiques. À un moment, on perd la trace de d'où est venue la source originelle du problème. Mais bon, ça veut quand même dire que s'il y a un mot de passe qui a fuité, c'est bien de le changer.
Mais il faut qu'il fasse quelque chose, François.
Oui, s'il y a un mot de passe associé, c'est bien de moins changer ce mot de passe-là.
Il y a aussi une option VPN. Ça, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors en VPN, on a intégré ça à Dashlane relativement récemment. Ça permet de protéger votre trafic Internet, en particulier quand vous êtes connecté, par exemple, sur un Wi-Fi public. Vous êtes dans un aéroport, vous êtes dans une gare, vous connectez au Wi-Fi de la SNCF. Bah là, votre trafic, il est à peu près en clair. Donc n'importe qui peut, de malicieux bien évidemment, peut s'interconnecter entre vous et le Wi-Fi et voler vos
ça
données.
Ça nous protège, là.
Donc ça vous protège, ça protège vos données.
C'était Dashlane, votre solution du jour. François Geffrier, merci Frédéric Rivin,
merci.
Le président de Dashlane, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à Laurent Chouin, notre coach. Je rappelle que vous êtes DRH du groupe Mazars. François, merci d'avoir été parmi nous cette semaine.
C'est un plaisir.
Je vous laisse préparer votre point sur l'actualité. Et lundi, Raphaël Duchemin sera de retour et nous parlerons des meubles à la française.
Eh ben merci Elisabeth Assayag. On vous retrouve alors lundi aux côtés de Raphaël Duchemin. Votre après-midi continue sur Europe 1 et elle continue avec Christophe Ondelat qui arrive dans quelques minutes. Bonjour Christophe.
Bonjour Justine.
Vous nous racontez quelle histoire aujourd'hui alors ?
Bonjour Justine.
Bonjour Christophe.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire célèbre et difficile. L'histoire des frères Jourdain qui enlèvent, violent et tuent un soir de carnaval au Portel dans le Pas-de-Calais quatre jeunes filles de 17 et 20 ans.
Alors rendez-vous à 14h pile pour Ondelat raconte sur Europe 1.